My name is Brian Ellis. I'm a national representative from Manitoba. I've been in the pension field for about 8 years. The title that you'll see on the agenda is Successes and Challenges, Experience of QP Trustees. And we have three highly eminent individuals in the pension spheres in from QP. And to my immediate left is John Weatherup, president of QP Local 4400 in Toronto. He's with OMERS. He's a director of the OMERS Administration Corporation. Next to John is Michel Lisée from QP Local 1294. He's a trustee with the University of Quebec Pension Plans. He's from the University of Quebec in Montreal. And Marg Romano, who's with QP Local 3761. She's a staff person with the Saskatchewan Nurses Union, and the Saskatchewan Nurses Union are represented by the Canadian Union of Public Employees in Saskatchewan. She's assigned to the healthcare pension plan in Saskatchewan. And with that, I will turn the floor over to John as our first speaker.
I'm not sure where to actually start when you sit on the board at OMERS, and all I can say is being on there for just 2 years, right, it's an interesting a place to be. But just to go, I think I got asked to speak last Thursday, and I said, well, what would the topic be? And they said successes and challenges that occur at a pension plan. Just for information purposes, OMERS has about $55 billion in assets. It has about 300,000 plan members. It covers the hydros, all municipalities, school boards, just in general. But I thought I'd give you more of my experience with being on the board of directors. One thing, the challenges that I found is that when you get tapped on the shoulder to go sit on a pension board that invests billions of dollars, it would be nice if you had the training prior to go sit on the board. I find that it's a limited amount of training available. In fact, in our own local now, we send people off to training far in advance of them having to go through this process. But in fact, the training process for being on these boards, because when you get on these boards, you're alone. There's all kinds of debates. They always love to throw fiduciary responsibility around, I think, for the first year, because if you remember, we were almost on strike over the Sponsors Corporation in Ontario, and we had called for a province-wide strike. So I think about every second day I would get another letter telling them about my fiduciary responsibility to the pension plan and how could I be involved in calling for strikes about the OMERS pension plan when in fact you sit on the board of directors. And to complicate it, as you may well know, there's a court case going on right now with, it was Wyman and Sid Ryan, and I believe Sid Ryan was taking off the list, and now it's Wyman, McKinnon, and Cupy, who have taken on the OMERS board over a number of deals. They left up for the courts to decide on what kind of deals they actually were. Prior to my going there was Borealis, a number of real estate transactions. And in fact, a court case, my most recent understanding of it is that they upheld QP's position in court and paid all legal costs for what's happened up to date. Now, the other thing is they tell me I have a conflict of interest. So even to hear what's going on around the court cases at those boards is that you're kept out of the room when you're not kept in the loop. So I actually go to the court and actually watch what's going on, because I'm allowed to go to court, but I'm not allowed to be told actually what's going on because I have a conflict of interest. So it's an interesting place to be, but really it goes back to training and education and what people should learn. So we really need to have better training around fiduciary responsibilities, because you'll learn today there's court cases out of New York, court cases out of Pennsylvania, the issue around fiduciary responsibility, and it goes back to the Scargill case, which everybody seems to parade around. But the Scargill case has been amended in the U.S. to reflect that I think it was the New York City workers who were going bankrupt, and they took their money and invested it into their own plans to save their own jobs. And in fact, you'll find that in a number of occasions. So the fiduciary responsibility on a board is somewhat limited now to what they can use, and really back to the Scargill case. The second thing I learned, being on a big pension plan, if you belong to OMERS and you have $55 billion, in the world today, they think that is a very small pension plan. OMERS is about 37th in the world at $55 billion. It will be 100th, it'll be number 100 within 2 years, and it'll be dropping very quickly because of the fact that the pension plans outside of Canada and the U.S., when you go to Europe, they're merging all their pension plans. So, in fact, if you go to Norway, Netherlands, you'll see all these massive $700-800 billion pension plans that are merging together, because they know the use of capital for them is beneficial to have it in larger amounts of money. But we have very similar pension plans to we have unions. We'd have decided a long time ago that we'd have very small and multiple ones, very much based on the U.S. model as opposed to the European model. So in fact, when we talk about, and we're going to, you know, the whole issue around P3s, because I was in the class with the professor, I think from the university, was speaking on the P3s. It's one of the whole issues that, he's there. The whole issue of P3s is a problem. What we don't have in CUPE and what we don't have across the unions is, if not P3s, what? And how do we do it? And we don't, I got to tell you, when you sit at Omer's pension plan or you see the teacher's pension plan, there's 100 people sitting in a back room trying to figure out what the next commercial paper is going to be that they're going to purchase. Or, you know, if everybody forgets the saving and loan scandal, it's about every 6 years there's a major scandal in the banking industry. It takes about 6-7 years for people to forget the last one. And when I first saw the banner behind me with the dollar signs, it's always about greed. It's always about corporations making more money. It's very simple. They start off with a plan that they think is going to do something, and then they say, well, this is going to make a little more money. Then the greed kicks in, and everybody wants a part of this, like this is the wealth. And it's not real wealth. It's just wealth that's created by some algorithm in a basement by some computer person who then sends it out to the market. Because if you look at the case, and I didn't realize it was that much money, $13 billion that they've actually invested in the paper, Omer's didn't invest $1. In the commercial paper, teachers didn't invest $1. So there's people out there who understand this. So there's this whole thing about pension plans. We have to get better at what we do. We need to understand that, and it's our money, and it's a lot of money, even though they say it's small. Union members need to understand that they have power in their pension plans. The hotel we sit in, the Fairmont, is partially owned by the Omer's pension plan, and most of the buildings you go into around are either owned by Omer's or the teachers. And I was talking to somebody from BC today who bought Bentall Real Estate and a whole range of issues. So I'm seeing my time's almost up, but I probably... The one thing that I just wanted to finish on, being on a board and a fairly new director, is that one of the things that we get kidded into is that we don't have an understanding of what we're doing, and we have to leave it up to somebody else, whether it's an investment manager, whether it's somebody who knows better than I. I have a simple answer for them when they tell me that there shouldn't be union people on those directors. If you look at WorldCom and you look at Enron, I'll guarantee you that if they took lawyers, CEOs, and accountants off those boards and replaced them with union people, they would not have any of those scams. Because how do you have the best minds in the country sit on a board and say they didn't know that Enron was just a paper tiger, or they didn't know that WorldCom was that? So union directors have to be trained and responsible, but we do a far better job at what we do than any of those directors. And any time they ask you, just say, could you produce a list of directors across North America who are either in jail or currently going to jail, then, you know, then you'll have a reason to talk about what union people do on those boards. So we need to stand up, take more responsibility, but we need the supports of the locals behind us. Because really, when they send you to that table and they start beating you with lawyers and you lose your house, you feel awful alone up there when everybody says, you know, you should be against P3s and you should be against private equity. But without the support of the locals behind you, it's very difficult to do. So that's the only thing on the last piece. It was on directors. We need better trained directors. We need more directors. And we need to have the protection for those directors when they're to stand up to these types of operations. Thank you very much.
Alors, bonjour. On m'a demandé de faire un peu le point sur les succès et les défis. Comme ça fait 25 ans que je suis au comité de retraite, ça m'a forcé à réfléchir un peu sur le passé. Et peut-être pour présenter très rapidement le régime, c'est un régime à prestations déterminées. Il a une gestion paritaire. Il y a 11 employeurs différents, donc un employeur, un employé par constituante. Vous comprendrez qu'on a un comité de retraite énorme de 27 personnes. Il y a donc aussi un comité exécutif et un comité de classement. Je siège sur les deux comités. Et par ailleurs, les clauses de négociation collective sont négociées par un cartel de 28 syndicats. Malheureusement, la négociation se faisant jamais en même temps que les conventions collectives, le rapport de force n'est pas nécessairement très fort au niveau de la table. La première chose que je voudrais peut-être dire, c'est j'ai l'impression que la façon dont j'ai appris mon travail de membre de comité de retraite, j'ai l'impression que plus les normes de gouvernance en soi-disant s'améliorent, plus ça devient difficile. Moi, quand je suis arrivé sur le comité de retraite, j'avais une formation générale sur des questions économiques, mais je connaissais rien d'un régime de retraite. J'ai cependant été chanceux de tomber dans un régime dans lequel les fiduciaires, on prenait beaucoup de place. On essayait de comprendre des questions, on rencontrait les gestionnaires et on prenait le temps qu'il fallait pour poser toutes les questions et savoir ce qu'on faisait. On était également prêt, par exemple, si on se rapporte en 1987, ce qui est presque hier, On était très insatisfait de n'avoir des actifs qu'en Amérique du Nord en pensant qu'il fallait un minimum de diversification. Et comme aucun gestionnaire ne l'offrait, on a fait un appel d'offres et on s'est rendu à Londres visiter 8 firmes différentes. Je pense que c'est probablement le séminaire le plus intensif que j'ai jamais eu de ma vie, de voir 2 gestionnaires par jour, parce que les gestionnaires qu'on rencontrait étaient très différents des nôtres, mais on apprenait et on se faisait une opinion, puis quand on revenait, on identifiait qu'est-ce qui est dans l'intérêt des membres et du régime à faire. Si on n'était pas sûr de certaines questions, on était prêt à mettre sur pied des travaux et à participer étroitement à la conception des travaux en question. Donc, c'est une pratique qui, à l'époque, nous a payés. Elle était d'autant plus facile que le régime de retraite à l'époque comptait un directeur à temps plein et quelques employés du côté des prestations. Mais bref, le directeur ne pouvait pas tout faire et donc il comptait sur les fiduciaires pour faire une grande partie du travail. Quand je regarde la situation aujourd'hui, la dynamique est tout à fait différente. Le régime est plus gros, on a un secrétariat plus abondant, plus nombreux, mais on a surtout une bureaucratie qui veut du pouvoir. Donc, il y a un nouvel acteur dans le décor. Il n'y a pas juste les employeurs et les employés. Il y a le secrétariat. Et dans la logique du secrétariat, le régime, c'est eux. Les fiduciaires, ce sont ceux qui devraient approuver la réflexion qu'eux font. Alors, ils visent à s'interposer le plus possible entre nous et les gestionnaires, entre nous et les consultants. Il a fallu que je fasse une crise pour que l'actuaire, quand il présente son rapport annuel, il soit physiquement avec nous et que j'aie pas juste son papier à qui poser des questions. Il y avait une tradition qu'on présentait un projet d'évaluation actuarielle, on le débattait et après ça revenait le final. Maintenant, quand ça nous arrive, c'est le rapport final, alors il faut que je me batte pour que le rapport final soit recommencé, pour qu'il tienne compte de ce qu'on veut qu'il fasse dedans. Donc, c'est rendu plus difficile. Alors, plus la gouvernance s'améliore, plus on a une série de documents à adopter à chaque réunion, plus l'ordre du jour devient très lourd, moins on a le temps de discuter les vraies affaires. C'est donc très difficile, je trouve, pour un nouveau membre de comité de retraite d'apprendre par rapport à ce que moi j'ai appris. Alors, ça c'est peut-être une leçon à retenir. Il faut garder en tête qu'une grande partie de la formation, c'est pas juste ce qu'on apprend dans les cours d'éducation syndicale, bien que j'en fais, c'est aussi est-ce que la façon dont l'organisation fonctionne permet l'apprentissage. Si j'essaie d'identifier dans les réalisations que j'ai faites, peut-être la chose dont je suis le plus fier, c'est des changements qu'on a apportés au régime en 2005 pour changer notre clause d'indexation. Lors des années 99 et 2000, on avait des surplus excédentaires, on était plein de congés de cotisation. Et moi, qui à l'époque était président du comité de placement, je me promenais en disant que ça n'avait pas de bon sens de prendre des congés de cotisation. La situation financière du régime, elle était préoccupante à long terme. Alors, pour me fermer la boîte, ils ont dit, si on fait une étude actuarielle de risque actif passif, est-ce que tu vas arrêter de nous achaler? Et j'ai dit oui, et on l'a fait. L'actuaire nous est revenu avec l'idée que bien qu'en moyenne, on va passer au travers, l'actuaire lui-même a été surpris du risque de cotisation qu'on avait. 13% de la cotisation, c'était suffisant en moyenne pour financer le régime à long terme, mais une fois sur quatre, on avait des problèmes. La cotisation augmentait à plus que 18%, puis il faut se rappeler chez nous que la cotisation est partagée moitié-moitié employeur et employé. Mais quand ça dépassait 18%, en moyenne, la cotisation atterrit à 31% de la masse salariale, parce qu'on était alors sujet à l'évaluation de solvabilité. Et c'est clair que si la cotisation s'en allait à ce niveau-là, il y aurait des coupures de prestations parce que c'est pas soutenable. On a cherché à voir comment peut-on réduire le risque. Politique de financement, pas beaucoup de marge. Politique de placement, pas beaucoup de marge, puis on contrôle pas les marchés financiers. Et il nous est apparu que la seule solution, c'était de créer un coussin en amendant notre politique de prestations pour réduire la garantie d'indexation, mais maintenir le versement de la cotisation pour continuer à nous assurer qu'on pourrait verser l'indexation pleine et entière avec un texte qui est très long, qui garantit aux retraités qu'ils vont l'avoir. Si jamais elle est retardée une année parce qu'on est en déficit, l'année d'après, il faut leur donner la rétroactivité avec intérêt. Donc, on s'est assuré que pour nos membres, ça revenait aux mêmes. On avait une solution technique, restait à la vente. Croyez-moi ou pas, c'est le monde à l'envers parce qu'on parle d'une clause qui réduisait l'indexation et les fiduciaires syndicaux ont trouvé que c'est une bonne idée. Les fiduciaires patronaux trouvaient que c'était un risque théorique. on n'avait pas besoin de s'en préoccuper. On est allé la présenter aux employeurs et aux présidents de syndicats. Encore là, ce sont les présidents de syndicats qui ont trouvé que c'était une bonne idée, pas les employeurs. Il y avait une jeune présidente qui nous a dit, le risque que vous nous montrez est tellement grand que si on fait rien aujourd'hui et qu'on est sur un mur dans 10 ans, on va pouvoir me reprocher de ne pas avoir rien fait quand c'était le temps pour assurer l'avenir du régime. J'aime donc mieux qu'on négocie. La négociation s'est faite. Je vais vous passer par les péripéties. Mais l'important, c'est que la seule vraie raison pour laquelle l'employeur a fini par signer, c'est pas parce qu'il s'est rendu aux arguments, c'est parce qu'il voulait qu'on augmente le plafond des salaires qui sont assujettis au régime parce que le fédéral avait augmenté le plafond des revenus et que les vice-recteurs avaient une partie de leur revenu qui n'était pas couvert par le régime de retraite. Fait que les syndicats leur ont dit, si vous voulez que votre revenu soit couvert par le régime de retraite, vous allez régler notre problème qui est l'insécurité du régime, et on l'a réglé comme ça. Et par la suite, il a fallu se présenter à 28 assemblées générales parce qu'il fallait le faire ratifier à 28 assemblées générales. On a expliqué aux membres pourquoi on le faisait. Ça nous prenait 28 lumières vertes et on a eu 28 lumières vertes. On a donc mis en place un régime qui assure notre pérennité du régime d'une façon beaucoup plus importante qu'avant. Si on m'avait dit avant qu'on réussirait, j'aurais dit que je n'étais pas sûr, pas en tout. Mais je trouve qu'on a été là capable d'être proactif pour assurer l'avenir du régime. Un sujet plus délicat maintenant, avant de passer à ce que je dirais est plus problématique. C'est le difficile équilibre entre la responsabilité fiduciaire puis mon engagement syndical. Parce que dans ma tête, c'est la même chose. Dans la vraie vie, des fois, ça peut être plus compliqué. Je représente 4 groupes, des cadres, des non-syndiqués, des professeurs puis des employés de soutien dans la même université. Leurs intérêts, des fois, peuvent être légèrement différents. C'est ma responsabilité comme porte-parole au comité de retraite de m'assurer que je tiens compte des intérêts des uns et des autres. Il m'a toujours semblé qu'il était important d'être très transparent. Donc, j'écris des rapports. Il y en a qui disent des rapports trop longs. Mais ce qui est sûr, c'est que l'information, elle est présente et les gens savent ce qui se passe. Par ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand un des syndicats change d'opinion? Il y a 2-3 ans, le syndicat des professeurs a décidé qu'il avait besoin d'experts. Il a mis sur pied un comité composé d'un professeur actuaire, un professeur en finance, puis un professeur en comptabilité. Les 3, par ailleurs, sont parfois des consultants. Alors, ils ont dit au syndicat qu'ils n'étaient pas d'accord et que notre régime, on devrait être davantage « mark to market », pour prendre le terme anglais, qu'on devrait mieux s'appuyer sur le marché pour faire notre calcul, que la solvabilité, c'était une très bonne idée, et que sur cette base-là, notre régime de retraite devrait être géré différemment. Je trouvais que ce n'était pas du tout dans l'intérêt des membres. Évidemment, la discussion a été difficile, parce que comment un employé de soutien peut-il dire à 3 professeurs experts qu'ils se tombent tous les 3 en même temps? Ça a été une période difficile. J'avais vérifié mes arrières avec mon syndicat pour m'assurer qu'eux étaient d'accord sur ma position, mais ça a créé un environnement délicat pendant quelques années. Il y a eu éventuellement des changements à la tête du syndicat de professeurs et, pour le dire poliment, ils sont revenus un peu plus proches de ma position, mais entre-temps, il y avait eu des manœuvres pour me faire débarquer comme président du comité de placement par un vote des employeurs, si bien que j'ai cessé d'être président du comité de placement, mais mettons que ça ne m'a pas fait fermer la boîte. Je dirais que si là où je trouve qu'on a une difficulté et là où ces années-ci, je trouve qu'il y a un mur, c'est sur la politique de placement et les placements responsables. On a déjà en place depuis plusieurs années une politique de droit de vote qui prend en compte les aspects sociaux et environnementaux. Je me rends compte après coup que j'ai pu l'imposer, en particulier parce qu'étant président du comité de placement, je pouvais pousser dessus, mais aussi parce que en faisant ça, on ne changeait pas les gestionnaires, on ne changeait pas la sélection de titres, et donc il y en a qui ont dû se dire « il va s'amuser là-dedans puis nous laisser tranquilles ». Donc ça, on l'a mis en place, et c'est le groupe investissement responsable et non plus nos gestionnaires filiales de banque qui votent nos actions. Ça, j'en suis très fier. Mais là où je suis frustré, je vais vous donner un exemple d'actualité. Dans 3 semaines, il y a un vote à l'Assemblée annuelle de Chevron qui fait partie de la campagne syndicale pour que Chevron se donne une politique de droits humains et qu'elle se retire de pays comme la Birmanie où il n'y a aucun respect des droits humains, où il y a la violation des droits, le travail forcé. La proposition est supportée, a été introduite par le syndicat des métallos, le syndicat des Teamsters, et tenez-vous bien, la filiale de la Banque royale du Canada qui gère des actifs de retraite, RBC Wealth Management. Notre caisse de retraite, on va voter pour cette proposition. Ma frustration, c'est combien de grosses caisses de retraite du secteur public avec des fiduciaires SCFP vont voter contre cette proposition-là parce que comme organisation syndicale, on ne s'est pas équipé pour rejoindre les membres du comité de retraite pour qu'ils fassent pression pour qu'on vote pour une telle proposition qui serait dans le respect de nos politiques. Et le comble, c'est que la semaine dernière, le SCFP à l'Île-du-Prince-Édouard vote une proposition qui demande qu'il y ait un boycottage en Birmanie, que les entreprises se retirent. Or, c'est l'industrie pétrolière qui soutient la junte. Et on a une proposition dans deux semaines et les caisses de retraite du SCFP vont voter pour. Je trouve que c'est gaspiller les efforts qu'on a fait chez nous de le faire parce qu'on ne le fait pas en même temps ailleurs. Deuxième exemple du même ordre, et je vais être très court parce qu'on m'indique que le temps achève. Notre caisse de retraite, dans la révision de la politique de placement, les consultants, nos analystes financiers nous disent qu'il faut qu'on fasse des placements d'infrastructure. Et on nous dit que les autres caisses de retraite du secteur public au Québec font des placements d'infrastructure. La caisse de dépôt est très présente, alors on va faire comme les autres. J'ai dû faire face à un front bien solide des analystes financiers, des employeurs et même des autres employés au comité de placement qui me disaient toutes que vouloir restreindre les investissements pour ne pas investir dans la santé, dans l'éducation ou dans l'eau, c'était illégal. Qu'on n'avait même pas le droit d'en discuter au plan fiduciaire. Alors, je leur ai dit qu'ils étaient des patates. Je leur ai dit, comment peut-on, comme caisse de retraite, investir dans l'eau, la santé ou l'éducation au Québec? On va être en conflit d'intérêts avec les intérêts de nos propres membres et de leurs collectivités qui sont des usagers de ces services-là. Je les ai pas convaincus du tout. Je les ai un peu plus convaincus quand je les ai prévenus que s'ils allaient de l'avant, ils se mettraient à dos les syndicats de l'UQ, dont ceux de mon employeur. Mon employeur est dans une crise financière épouvantable à cause d'un PPP qui a mal tourné. Et donc, j'ai dit, tu as besoin des syndicats quand tu veux amender le régime, tu es mieux de faire quelque chose pour ne pas les heurter de front. Alors, à la fin, on a une phrase dont je ne suis pas très fier parce qu'elle n'est pas aussi loin que je voudrais, mais dans laquelle le comité s'engage à être particulièrement prudent avant d'investir dans tout projet dans l'eau, la santé ou l'éducation au Canada, ou tout projet d'infrastructure qui a des effets négatifs sur l'environnement. Mais je le répète, l'environnement aurait été plus facile s'il y avait une action pour que d'autres caisses de retraite du secteur public fassent le même débat, introduisent des restrictions. C'est très difficile de maintenir une ligne si on n'est pas plusieurs à le faire en même temps. Puis là encore, c'est le même problème que tantôt. Je pense que nous n'avons pas une action suffisamment cohérente pour non seulement former, mais surtout informer de façon continue. Au Comité national d'action sur le régime de pension, ça fait plusieurs années qu'on dit au SFP, il nous manque un réseau de communication et de support des fiduciaires. J'espère qu'un jour, on l'aura. Merci beaucoup.
I'm Marg Romano from Saskatchewan, and I'm a trustee on the health care pension plan. And it's a relatively small pension plan in comparisons with many of yours. It has only about 33,000 members in scope and out of scope. So I'm going to do the successes first, because that's fun, and then I'll get to the challenges. In terms of successes, after many years of having contribution holidays occur, finally, in about 1998, we stopped contribution holidays, so that's where I think we took our first baby steps. From there, then we embarked on a journey of about 7 years to get joint trusteeship. And I mention these things so that if any of you are looking down the road to lobby for certain issues, that certainly it doesn't happen quickly, and just hang in there. In healthcare, there are 6 unions involved, and so the 6 unions work together on the joint trusteeship endeavor. And we hired our own lawyer, we hired our own actuary, because we didn't believe we were getting adequate and full information from the plan's professionals. These fees were cost-shared amongst the unions through that 7-year endeavor, and we continued to lobby until the costs of the lawyer were paid out of the plan. So it rang up, $500,000 worth of legal fees, which were paid out of the plan ultimately, because we continued to argue that joint trusteeship was not just for union hats. It was something that would improve the plan for all members. Then, once we got joint trusteeship, we moved out of the employer's domain. We moved out of the employer's offices where we felt there was a philosophy and a mindset to work, to have the pension plan work for the employer. Then we hired our own new auditor. There hadn't been a new auditor of the pension plan for some 40 years. And again, I don't say this lightly. It was a hard argument to say, isn't it about time to have a fresh set of eyes look at this pension plan after 40 years? But it took a while, literally years, to get a new auditor. And then we hired a new lawyer. And no offense to lawyers, but there's not a lot of lawyers in Saskatchewan of pension expertise. And yet we were told by the plan, well, can't we just hire a lawyer that we can have coffee with? So again, several years later, we did hire a lawyer who happened to be out of Saskatchewan, but who has vast amount of pension experience. Now, as unions, we meet prior to the trustee board meetings. There is a trustee board of 8, 4 employer reps, 4 union reps, and we meet. And we get told about this union hat stuff all the time, and we continue to say, yes, we wear a union hat, but our interests are for the better pensions for the membership of the plan. It's not union agendas per se. It is for improving the pension plan. Some of the other things that we've accomplished as a joint trustee board, we have, again, been solid as unions to say no to certain endeavors, one of which was the employer said, well, let's create a sub-plan for high-salaried, out-of-scope employees in healthcare, and let's use our pension monies to support that. So that was one example where we were successful in saying, no, we're not going to be a part of that. Now, to some of the challenges, we certainly feel that we are still coerced to a certain degree by employers' agendas. We're not convinced that the staff of the pension plan work entirely for the membership of the plan. We still believe that the agenda is serving employers' purposes primarily and not members' purposes. So we continue to struggle with that. One of the things we want to work towards is to have more insight into the backdoor discussions with the actuary and the lawyer. Most recently we brought this up and we were told, now you don't want to be bothered with the minute details of discussions with the actuary. Yeah, we do. That we wonder... question if the actuary does not come to the table with certain assumptions that have been pre-discussed with the plan management and or employers. So, and call me negative, but I've been around in healthcare on their pension committee for 20-some years, and I've just been burnt too many times, and I still have a significant degree of mistrust of who is driving the agenda and for what reason. We've certainly recently gone through a 4-year challenge of what did the trust agreement mean. So after spending 7 years creating the trust, we spent another 4 arguing about the intent and the interpretation of the words, and again had to use our pension lawyer and continue to argue and stick together as unions, and that's where it's so important for us as unions to meet prior to meetings to ensure that we all understand the issues and we're all on the same page before we go to the meetings. Another challenge that we haven't been successful with yet is negotiating plan improvements. Because we're 6 different healthcare unions, we have 6 different bargaining tables at different times. How can we all negotiate an improvement at that table? And what we have said over and over again, that we intend to negotiate the principle, negotiate whatever it might be, improvement to the pension formula, that we would negotiate that at each of our prospective provincial tables, get a blessing or approval from employers and employees of those all those healthcare entities, and then we'd still have to take it and work it into the trust agreement and make plan improvements. So we understand that we wouldn't negate the provisions of the trust agreement and the requirements to make changes via the trust agreement, but we still want to bargain those things at provincial tables. The administration of the plan thinks we shouldn't or can't bargain these provisions, but certainly when we had our lawyer creating the trust agreement, that was a clear understanding that in trust agreements you can still negotiate provisions at bargaining tables. I think it was touched on before, the lack of education for pension representatives from unions. And I've said it a couple times over the last couple of days. I commend CUPE for the work they do in pension education for unions. There's not enough of it. And the other thing is, if our unions and our locals can support more members to attend educationals. And I think we have to have a perspective from both union education and from the public sector education, whatever opportunities are out there, because we need to hear even where management is coming from as well, so we understand it and we can be prepared for those types of things. Within our pension plan, we have brought up the concept of socially responsible investing a number of times. We've been told that's just your union hat, it's too risky, and we've had the same negative responses. So we have to continue to be better educated, to keep pushing those arguments. And we can't even get to proxy voting, for heaven's sakes, let alone socially responsible investing. So we're really in a conservative environment that, again, as unions, we have to keep pushing for these things. So I think in closing, I don't want to be negative and discouraging, but we are doing good work for our pension plans. It's not easy. It seems like everything takes a very long time, but we have to hang in there. CUPE's established a trustee network of all of us in this room now that we can look to for more experience and chit-chat about what everyone else is doing and compare our plans. That's great. We have to hang in there with our solidarity on pushing forward the agenda for pensions. Thank you.
Thank you to our presenters. At this stage of the agenda, we'll open the floor up to questions or comments from folks in the audience. Let me start then. All three of the trustees have talked a little bit about some of the risks associated with being a trustee on a jointly trusteed plan. And what I'd propose is to have the same question addressed to all three of our panelists. How does your board or the trustee that, you know, the capacity that you sit in as a trustee, how does your plan address liability issues? Is it through insurance? Is it through indemnification? And what do you recommend for it, for any new trustees who are sitting on a plan?
I'm not sure. I can tell you how OMERS does it. It's through insurance and indemnification. But in fact, you're not covered in certain circumstances because the indemnification comes with an indemnification. That in fact, if you're doing something, that's the whole question about fiduciary responsibility is the unknown, not the actual fact. So most of it's covered by an insurance or liability insurance, but it says if you're in violation of any number of things, then you're not covered. And coming from a local union where the pension plan itself probably has about 400 lawyers, the union side of it probably has a limited amount of resources to look at that issue. So it is an insurance policy, and it is probably indemnification, but the reality is there's so many loopholes in that. In fact, if you're caught outside of what they say is your liability, shall I say, then you're on the hook. Or that's what they tell you are. I mean, I'm not sure it's actually that you are, but that's the threat, that when you go into the fiduciary responsibility, you're on outside of that, you're on your own.
We've had several on a eu beaucoup de discussions au sein de notre comité de retraite. On a non pas une, mais essentiellement cinq niveaux d'assurance responsabilité, parce qu'on tenait à avoir une protection qui était autour de 90 millions. Et le premier assureur ne le voulait pas, et donc la seule façon qu'on a pu se rendre à notre total a été de monter une protection sur plusieurs. Il faut savoir qu'il y a une particularité au Québec, c'est que le Code civil oblige l'assurance responsabilité à assumer les frais de défense en dehors du montant de la couverture d'assurance responsabilité qui existe. Donc, dans les faits, les couvertures tendent à refléter ça. On a par ailleurs signé une convention d'indemnisation parce qu'il y a une franchise sur les premiers... Je pense que c'est 500 000 $ et si ça arrivait, ça c'est l'employeur qui aurait à assumer cette partie-là. Par ailleurs, au niveau québécois en général, J'étais sur un panel d'experts qui a avisé la Régie des rentes il y a quelques années là-dessus. À cause de poursuites au Québec contre des membres de comités de retraite dans le cas d'une mine d'amiante qui a fermé ses portes notamment, la Régie des rentes estime qu'il y a des failles importantes dans la couverture. Cependant, si ça peut nous consoler sur nos problèmes à savoir c'est quoi l'état de nos régimes de retraite, la Régie des rentes n'a aucune idée de qui a une protection d'assurance responsabilité et quel niveau existe. En fait, ils ne pouvaient même pas nous donner un portrait de l'assurance responsabilité au Québec. Donc, la Régie est en train d'accumuler à travers la déclaration annuelle des informations parce qu'il y a un article dans la loi depuis près de 20 ans qui a été adopté pour rendre obligatoire l'assurance responsabilité, mais qui n'a jamais été promulgué. Et la Régie des rentes envisage sérieusement l'hypothèse, si elle constate que la couverture est trop disparate, d'obliger à une forme de couverture minimale. Puis la question suivante est, si c'est une couverture obligatoire, est-ce que ça ne devrait pas être un régime public plutôt que de laisser les compagnies d'ailleurs nous assurer pour qu'au moins la protection publique soit une protection homogène à un tarif raisonnable pour l'ensemble des caisses de retraite? Donc ça, c'est une hypothèse sur la table.
For our healthcare pension plan, we have fiduciary insurance, and I guess as we speak of it today, I should go back and see if it's enough. And I think that's something where QP can help us out, that if we can get a list of what pension plans and what type of insurance coverages they have, because of course in the past we've been told what we have is enough. I mean, it kind of goes without saying, right? So if we could compare to other pension plans and say, well, this pension plan, as Michelle mentions, has five levels, I think ours has one. It would be interesting to compare and see what's reasonable. The other thing that worries me as a trustee is, am I educated well enough? Because I also have heard that if things don't go well and I say, well, I didn't know or I didn't realize, I'm not sure that will carry me very far. So again, as unions, we have to ensure that we are properly educated, that our unions support us to attend educationals, etc., because we are potentially on the hook.
Je voudrais ajouter un élément important qui n'est pas sur l'assurance responsabilité, mais qui est complémentaire. La législation du Québec a fait l'objet d'amendements importants sous la gouvernance, et l'un des objectifs était d'améliorer la protection et le statut des membres de comités de retraite. Et il y a trois points importants que je veux dire. D'abord, la loi prévoit ce qu'on appellera en anglais un « safe harbor provision », la notion que si un membre de comité de retraite agit de bonne foi sur la base du conseil d'un expert externe, il est présumé s'être acquitté de ses responsabilités fiduciaires. Donc, les comités de retraite qui demandent avis à un conseil et qui suivent l'avis ont une protection à présumer très forte contre des poursuites. Deuxièmement, la loi a été amendée pour donner des droits accrus à l'information pour les membres de à la formation. La loi dit clairement maintenant que la formation, c'est une dépense d'administration admissible et tout régime de retraite est obligé dans son règlement intérieur de préciser quelles sont les mesures que le comité a prévues pour la formation de chacun de ses membres. Troisièmement, il y a un droit à l'information. Tout membre de comité de retraite a le droit de demander et d'obtenir tout document nécessaire à l'administration du régime. Le secrétaire du comité doit fournir les documents pertinents. Ceux à qui il y a une délégation doivent fournir les rapports sur leur mission. Et enfin, il y a une obligation de signalement, ce qu'on appelle en anglais le whistleblower. Donc, tout fournisseur de services qui réalise une situation qui présente des risques importants pour la caisse est tenu de faire rapport par écrit au comité de retraite. Si le comité de retraite n'agit pas, il est obligé de faire suivre le rapport à notre organisme de réglementation. L'idée derrière ça étant de multiplier les lignes de protection qui exposent moins le comité de retraite à des recours parce qu'on crée des mécanismes où d'autres partagent la responsabilité, plus deux dernières que j'allais oublier. Quand on délègue la gestion de fonds à une firme qui a une marge discrétionnaire, cette firme-là a la même responsabilité fiduciaire que le comité de retraite et la loi interdit que le contrat entre le fournisseur de services et le régime de retraite limite de quelque façon que ce soit la responsabilité du fournisseur de services. Les clauses nouvelles ne peuvent pas en contenir et les anciennes clauses doivent être évaluées en utilisant la législation de protection du consommateur pour évaluer si elles sont abusives ou non. Donc, l'ensemble législatif même si dans votre cas, vous n'êtes pas obligé d'avoir des comités de retraite, vous auriez peut-être intérêt à regarder la législation parce qu'elle donne des pistes intéressantes de comment améliorer la protection des membres de comités de retraite tout en maintenant l'obligation de la responsabilité fiduciaire.
Speaker, microphone one.
Hi, Yvonne Sullivan, Local 2329. I'm the Newfoundland and Labrador rep on the National Pension Advisory Committee. I found it interesting that all three speakers touched on the need for trustee training, not only trustees currently to be trained, but trustees in training so that they won't be thrown in. I just wanted to make sure that everybody was aware that we've, as a committee, have spearheaded training, and it's one of our top priorities. And there are three levels of training available for QP members, which we'd like for you to make known to all your members. One of them includes trustee training, but as you say, it's basic. It just touches, you know, a beginning. But our education department has worked really hard on it, and we're pleased with all three courses. So my question, I'm going to kind of put you on the spot, and maybe you've thought of this and maybe you haven't, but as people who are trustees on these plans, what ways could you see, or what resources do you think QP would need to move forward in providing more training or more diverse training to trustees, or even networking among trustees? Thanks.
I think it may be different for different plans that you would sit on. When I talk about sitting on the board of directors at OMERS, and the way OMERS is structured is that they do direct investments. So, you know, the trustees training, you get the fiduciary piece, you get a whole number of things, but you're talking about investments up to billions of dollars around, you know, buying the Fairmont hotels or buying a whole range of things. So you have your issue around fiduciary responsibility, but there's, when you're sitting on these boards and making investments and taking pension people's money, when I hear, you know, the question about responsibilities, what happens if you make a bad decision, you know, at a place like that, I think that there's probably more, and it's maybe the larger plans, because I can't speak to all the plans, but some plans use investment managers to do their investments. OMERS is really involved in doing direct investments. So you have Borealis, you have Oxford Real Estate, and you have private equity, where there's lots of the investment piece that's part of this that you're actually doing. And, you know, and I'm hearing about Quebec has this law about relying on experts. But in Ontario, if you rely on experts as your way of doing things, you could be responsible for your actions, even though you've considered the expert advice. And I don't want to comment on the Borealis case, but I presume there was experts who gave advice on that, which may or may not be good. Now, I don't want to comment on that, but the whole issue of liabilities and what it, I think different plans have different needs. And I could tell you, when I get on the board, it'll take me years to get the full grasp and the breadth of what this type of training is. So if I was to give some advice, depending on the plans, you know, the type of investments, and more issues around P3s and what the responsibilities are around P3s and how they occur, just a better general knowledge of the investment world. For example, people, when you're investing in P3s, just because you invest, say you're in a green fund or whatever, the way capital works, just for example, the capital doesn't have to go into a green fund. They just have to return on the green fund. So in fact, when they ship that money off to the Deutsche Bank or they ship it around the world, that money's laundered about 100 times before it gets back to the... So you're really understanding, if we're going to get our minds around not having these types of investments, we have to be better trained in tracking dollars around the world, because in fact, as much as you may think they're investing somewhere, these banks are taking that money and investing in all kinds of things that we have no idea about. And now with sovereign funds and the privacy of those issues, the uptake of private equity, the reason you go into private equity is because you don't have to report to anybody on what you're doing. So just those types of issues, I think on that end of it, if you're going to be on boards where you're making direct investments, that type of training needs to be part of the policies that you're going to go for. I haven't been on a smaller plan, so I don't know to comment on what their needs would be.
Je ne développerai pas trop, mais je veux souligner que la façon dont au Québec on a essayé de régler le défi de la formation et d'amener l'ensemble des syndicats à mettre leurs ressources ensemble et à se coordonner au sein de la FTQ pour que la FTQ élabore la Fédération des travailleurs du Québec, pour qu'elle élabore le matériel de formation, forme les formateurs et formatrices de la formation de base que les syndicats ensuite offrent, ce qui a libéré des ressources pour faire plus régulièrement la formation avancée. On parvient donc avec ça à faire un volume de formation plus important. Comme je soulignais dans ma présentation, je pense que ça doit être complété par un fonctionnement du comité de retraite qui pourrait prendre un terme et lui aussi fonctionne comme un « learning organization », c'est-à-dire un organisme dans lequel il se fait un apprentissage parce que l'organisation doit elle aussi apprendre. S'il n'y a pas cette composante-là, c'est très difficile. Sur le support, pour moi, la situation est la suivante. Le SCFP dispose de quelques centaines de fiduciaires qui siègent un peu partout sur des caisses de retraite différentes, mais chacun d'entre eux est isolé ou on n'est pas nombreux pour le faire. Donc, le sentiment d'isolement et le besoin d'un support est particulièrement important. Et c'est assez clair pour moi que les ressources de notre syndicat ne nous permettent pas d'imaginer qu'on peut avoir 10-12 conseillers syndicaux comme Kevin Skerritt pour faire ça. Je sais déjà qu'il court partout. On pourrait les doubler demain matin. Ce n'est pas une option que de se compter sur beaucoup de permanents. Ce qu'on sait cependant, c'est qu'il y a possibilité d'utiliser des outils, d'utiliser l'Internet, d'utiliser les communications pour tenter de créer une façon de mieux coordonner. Si on prend l'exemple des syndicats au Royaume-Uni qui ont une structure semblable à nous, la centrale syndicale, le Trade Union Congress, a un réseau de Member Nominated Trustees et envoie régulièrement des communications à tous les fiduciaires et organise des conférences. Le syndicat, qui est notre contrepartie, Unison, a mis sur pied un site web, a investi beaucoup d'argent pour que l'ensemble des fiduciaires issus de ce syndicat-là puissent accéder à des informations, puissent accéder à une bibliothèque de documents, puissent échanger, puissent à un moment donné dire « je suis confronté à telle firme qui s'en vient chez nous, est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? » Et on pourrait trouver qu'il y a au sein de notre syndicat beaucoup de ressources. Dans l'atelier ce matin, on parlait de la Lyonnaise des eaux. Raymond Légère, du Nouveau-Brunswick, les connaît plus qu'il aimerait les connaître, je pense. Donc, si quelqu'un ailleurs est pris avec cette firme-là, le réseau de nos ressources à l'intérieur du syndicat pourrait être utilisé. Je reviens à mon exemple de la Birmanie. Si l'ensemble des membres de comité avaient la documentation que la Centrale syndicale internationale, ou International Trade Union, auquel on est affilié, a produit sur la Birmanie, les documents autour de la résolution de Chevron, à mon avis, la résolution du vote du 28 mai aurait un résultat très différent. Et je pense que les membres du comité de retraite se sentiraient même plus motivés à agir sur des dossiers s'ils étaient alimentés par leur organisation syndicale. Alors ça, c'est un dossier qui, pour moi, est important depuis des années. Le comité national, on y croit. Cependant, c'est pas simple parce que ça présume qu'il faut réussir à coordonner les ressources de notre syndicat au niveau du service de recherche, au niveau du service d'éducation, parce qu'il y a un aspect éducatif, mais il y a un aspect communication aussi là-dedans. Et j'ai compris que c'est pas toujours simple d'attacher ces trois choses-là ensemble. Donc, il y a peut-être des murailles de Chine qu'il faut abolir à l'intérieur même de notre syndicat pour parvenir à le structurer. Mais ce que je sais, c'est tant qu'on fera pas ça, nos membres de comité de retraite vont rester isolés chacun dans leur coin et n'auront pas l'appui dont ils auraient besoin quand ça va mal.
I think QP has a lot of the tools in place already. You have your website, you have email groupings, and I think, and I know myself, I should use it more. In other words, and we talked about it in our small group, that we should email into that grouping at QP, what are you guys doing about maternity leave coverage for pension plans, or what are you doing about mandatory enrollment, and use it more. It's set up, perhaps the list could be expanded, but if all of us could use that more. Again, you have your trustee workshops already, but for some of us who have been around for a while, perhaps more workshops could be implemented that would focus on very targeted areas, i.e. investments, and that it would be QP union trustees spending a day just talking about investments and really drilling down on that. And again, I think you have the courses set up so that as older trustees move on, that you'll have a younger set coming up the ranks. I wrote a letter a while ago to CLC to create a trustee venue, and you know, so maybe we could get the CLC to do that, even in a broader perspective. The other thing, some provinces have, their federations of labor have pension conferences that are in union education. Maybe we should be popping into those and see what other, I attended one in BC, which was great information. And we're having one in Saskatchewan in February, you know, so maybe we can travel back and forth and find out what's happening in other unions and other provinces regarding pensions.
Just one thing I wanted to say, and I was just on the socially responsible investing. We should have training on that because I think that's like asset-backed paper. The biggest thing that everybody introduces now at pension plans is your SRI. Really, what they're referred to is the lack of SRI. It's so you can go out and say you have a social responsible investment policy when, in fact, you have no socially responsible investment policy. What it does is just say to you that if you run through these little programs that we have, and don't worry your silly little head off over it because we know what we're doing, that they'll have these policies. And, like, you know, everybody will parade them out. I mean, everybody's writing them a dime a dozen right now. So when you look at, like, and that's what I'm saying, for training for trustees to sit on some boards or directors, when you talk about socially responsible investing, most of the times it's so that they can get around having either what they used to call the screens that used to block having water or schools or healthcare, and they say, well, don't worry about it. We're going to have a much broader SRI policy that will protect you. The reality is they're just getting rid of your protections, and you'll have some policy that, while interesting and everything, you may want to have a really good read of it because, in fact, when you try to apply it, I think they probably are investing just at about everything. I haven't found out exactly what they're not investing in when you even have a socially responsible policy. So those are the types of things I think when you're talking about education that you really have to get down and understand what the policies are meant to do, and they're usually designed by very smart people to put into place to stop you from thinking about the things that you used to have where don't invest in schools, you know, water should be public. We have these kind of standards that we want to keep, and it gets watered down in what they call the SRI policies. And there may be good ones. I'm not saying they're all bad. I'm just saying we need to have training on it to understand between a good one and a bad one.
Hi, thanks. Great presentations from all of you. Kevin Scarrett from Research. I wanted to pick up on the discussion of P3s. And I guess I want to just follow what John was saying about the fiduciary duty line and how that's hammered at us. John mentioned something quite provocative, and that is what you guys do at these tables is only powerful if, you know, there's action in the streets or there's action from the unions. And I wanted to hear a little bit more about that. Because we're all from unions and we've all got locals and members that we could mobilize, but generally speaking, we don't. And so I'd be really interested, because I'm sure I know John and I know Michelle, I don't know about Marg, but I'm sure you've all had some debate and discussion about the kind of limits, the kind of policies you'd like to see. But by and large, you know, we really don't do very much as a union to apply pressure on our employers or our boards of trustees around investment policy. And I guess I'd be interested to hear, like, what would be helpful? What would be helpful for us to do as trade unionists, but also, like, from the union leadership? Like, what could we imagine happening, and I mean, let's not be unrealistic, realistically happening to help provide you guys with some leverage and some power for debates around this issue? So that's my main question, and I guess just as a kind of a side question, I wanted to ask if you've had some specific techniques or strategies used. For example, I'm not sure if I've spoken to you, Michelle, about it, but I'm sure at OMERS, one of the techniques that I know has been used is for trustees to demand that, okay, perhaps not a blanket prohibition kind of language, because I think we all know that that's likely to be challenged, but language that would say, if there's going to be some sort of investment in a public-private partnership or anything that involves privatization or something on a certain list, it must come to the board for specific approval. And I know that some boards have done that, and that rule alone at times is enough to actually block certain investments because they know that they don't even want to get into it with a group of trade union trustees. So I wondered if any of you have experience with that or anything like it.
At OMERS, they have two policies on, like, it's $200 million or more comes to the board, $200 million and less does not. But anything that causes a political controversy must be reported to the board. So all of these types of issues have to go to the board. It's mandatory for the CEO to report on it. the things that you can do, and this has always been the discussion, and we've had this discussion, Kevin, is political action. If you look in Toronto right now, they wrote this blue ribbon report in Toronto, for those who don't know, and they put in there that there's this really shiny apple called Toronto Hydro. And really it's going to be the political action around the mayor and city council to stop them from putting it up for sale. And we need action around the city council and those politicians, because when they put it up for sale, somebody will buy it. It will sell to, whether it's a Dubai fund or a pension plan, it will sell. So our fight has to be, if you're going to take on with the government and politicians, is taking on those politicians before they sell the asset. Because if we can't stop that, it's not, you know, we talked about cooling the pension committees, but the reality is the money that's rolling in, there's a flood of capital out there that is so overwhelming that they will buy anything that makes money. So it's really at the political level, whether it's councillors or, you know, holding the Liberal government in Ontario, that these are not alternative financing arrangements, they're P3s. And so it's really getting out in their face. And if you think about it for a second, and I'm not complaining about QP, they're spending $5 million or something on a privatization fund. Well, I got to tell you, somebody like Sodexo, or they spend $5 million in 5 minutes. We do have the people, but it's a really trying to get organized and educated on the issues of what it means. And we talk about it, it's quite simple. Get to the taxpayer. You know, we saw the report there, you know, 24% profit for Borealis. Well, reach into your pocket, check your wallet, you're missing 24%. Because it's the taxpayers, us, who are paying it. And it's been very hard, you know, let's say it's good for the pension plans, but it's really, really bad for the taxpayers. And so it is taking those issues to the taxpayers that P3s were bad. Over 50% of Canadians believe P3s are bad. They don't believe they're still good, and we're losing that fight, and it declines all the time. But most people believe P3s are bad. That's why you're seeing the change in the names. So it's around education, direct action. I got to tell you, the almost strike in Ontario, we have 6 meetings a year with our members. We train up to about 700 people a year on our pension plans. Prior to that strike, I wouldn't have seen 6 people in 6 years. People are interested in pension plans right now. They're starting to understand the power that's there. But it's real political action, as well as getting the pension plans to move. But it's political action, and it really is on the streets taking them on when they put these assets up for sale.
Kevin, je te répondrai en te disant ce qui a été dit ce matin dans notre atelier, parce que ça répond à ta question. Ce qui a été dit ce matin, c'est que les membres du comité de retraite qui étaient là disent « On a besoin de mieux documenter les expériences, on a besoin que le CFP nous alimente, faire connaître ce qui a été fait et à 2 niveaux. Pourquoi les PPP sont de très mauvaises politiques publiques et pourquoi les PPP ne sont pas une bonne orientation, une bonne option pour des caisses de retraite. Et moi, ce qui me frappait, c'est que moi, je sais pour l'avoir lu qu'il y a au SFP des documents intéressants qui ont été produits. SFP Ontario en a fait beaucoup, la Coalition pour la santé en Ontario. Ce qui est clair, c'est que cette documentation-là, elle existe à quelque part. Les membres de comités de retraite ne l'ont pas vue, ne la connaissent pas, elle ne leur a pas été accessible, et donc, par conséquent, elle n'existe pas à ce moment-ci quand les gens en discutent. C'est donc un enjeu et de formation et de réseau de communication pour que ça se rende. Une deuxième suggestion qui a été faite ce matin en atelier, c'était de dire ce serait intéressant d'imaginer si on pouvait développer un outil d'audit pour les membres de comités de retraite qui voient des propositions venir devant eux. Qu'est-ce qu'on devrait regarder dans une proposition, dans une offre, que ce soit en termes de gouvernance, de mandat, de fonctionnement, et qui aiderait le membre du comité de retraite à être capable de décortiquer la proposition et de la défaire, sur le plan critique, de le faire. Quelqu'un a fait remarquer qu'il y a quelques années, le SCFP produisait un rapport annuel sur les PPP qui permettait de faire le tour de ce qui avait été fait et surtout de ce qui n'avait pas bien marché. Mais ça obligeait à un effort constant de ramasser les dossiers pour être à jour. Il faudrait se demander si ce n'est pas un effort à reprendre, mais en ajoutant une emphase particulière sur la dimension des caisses de retraite étrangères ou domestiques dedans. Quatrième suggestion qui avait été faite en atelier, c'est si on veut pas être sur la seule défensive, il faut en même temps articuler des alternatives. Comment pourrait-on faire autrement pour parvenir au renouvellement des mêmes infrastructures publiques de façon avantageuse pour les caisses de retraite, mais pas dans le cadre qui nous est proposé? Fait que je disais que ce matin, c'était un peu ça qui était dit comme piste. Par ailleurs, pour l'autre question que Kevin posait, lorsqu'une caisse comme la mienne, il n'y a rien qui est géré à l'externe, tout est confié à des gestionnaires externes. Donc, par définition, tout nouveau mandat passe au comité de placement. Ce que ça ne règle pas, c'est que lorsqu'on choisit de donner un mandat à un fonds, on est dans une société en commandite, on est dans une société fermée. Une fois qu'on a donné le mandat au gestionnaire, par définition, on est dans la raide pour 5, 6, 7 ans. Le gestionnaire ne revient pas nous voir pour chaque transaction, il a un mandat par rapport au fonds. Donc, une fois qu'on a accepté de donner le mandat, on est un peu fait. Donc, le débat chez nous, c'est quand il arrive qu'il faut essayer de l'arrêter, ce qui n'est pas simple. On l'a déjà fait une couple de fois, mais on ne réussira pas tout le temps, je pense. Sauf si on avait de meilleurs dossiers pour savoir que quand un joueur arrive, le membre du comité de retraite est capable de documenter le comportement de cette firme-là ailleurs, parce que là, il a des arguments solides et factuels pour dire ce sont les raisons pour lesquelles on ne devrait pas y être. Mais je suis conscient, quand je dis tout ça, que ça demande un effort de recherche qui n'est pas négligeable, mais je pense que c'est une bataille qu'on ne peut pas se perdre le luxe de perdre.
I think we have to ensure that pensions are on the agenda of every local meeting, that we don't talk enough about pensions, and it's still appalling when we meet with members and they'll say, I don't even know what kind of pension plan I'm in. So as unions, I think we have to talk about pensions a lot more. In Saskatchewan, QP has a benefits council in healthcare, so it's a separate entity onto its own with rank and file members who meet and talk about pensions and benefits. Union newsletters should have a section on pensions all the time. And to get this information, QP National produces newsletters. I mean, I can't tell you how many times I've used the same document that's DB versus DC and the merits of DB. We've used it over and over again. So those type of things are easily accessible, can be easily distributed and help educate our members. As pension trustees, then I think we have to be more transparent that our minutes or summaries of our minutes of our meetings should not only be on the pension plan website, put it on our union website. Again, we're educating our members. Because if they don't understand the pension, and if we ever want to get them to join a lobby, they won't understand what kind of pension they're in, let alone P3s. The other thing that we've used is bring it to the bargaining table. But again, people have to understand the issue. They have to understand the fundamentals of what the pension is to then understand what specific issue we're arguing about and use it as a bargaining tool when we go to bargain. So again, I think we have to, from our end as well, communicate more about pensions and then ask the QP Research Department to draw up a bulletin or an info sheet on some specific item that we're dealing with. We can distribute it, talk about it, and raise the awareness.
Just on the P3s, like we said, if you can find anybody that found out that a P3 was successful for the taxpayer, could you forward it to me? Because we're looking for all the cases that failed. I don't know that I've won that somebody can report to me where the government hasn't either bailed them out or changed terms and conditions in a P3, because we're always looking for the Nova Scotia horror cases or the Abbotsford Hospital. All I can tell you is when they start a P3, and by the time they're finished, they've probably been bailed out 3 times by the government. So we should, as well as we need the information, when you're in a debate with somebody, just tell me which one was not bailed out by a government prior to implementation and which one's not paying an interest rate far greater than anybody on this planet deserves. Because as much as we want to find the cases that failed, I'm still looking for the one case that's been successful.
We're at 4:25. We'll take one final short question.
Ouais. Vous voulez finir en beauté. Raymond Légère, chercheur au bureau de Fredericton, Nouveau-Brunswick, l'île de Prince-Édouard. Je pense, à l'heure actuelle, au régime de retraite, et c'est un peu la même chose pour les bénéfices en général. Je pense qu'il faut voir les régimes de retraite et les bénéfices comme étant une nouvelle frontière où les employeurs essaient de nous attaquer. Dans les années 80, dans les années 90, c'était de baisser nos salaires ou de geler nos salaires. Maintenant, ils veulent s'en prendre à nos régimes de retraite, à prestations déterminées, pour les transformer en autre chose. Et il faut pas sous-estimer ce qui arrive dans le secteur privé. Particulièrement si vous avez entendu parler de ce qui a été fait aux États-Unis dans l'industrie de l'auto, par rapport au régime de retraite, mais aussi, surtout, par rapport aux bénéfices, c'est qu'on va avoir de plus en plus de pression à protéger et à améliorer nos régimes de retraite. Puis je pense que ça fait un peu partie de la discussion qui a eu lieu. On se doit de se donner des outils, mais des outils d'éducation, des outils d'analyse. Et souvent, chez nous, les gens qui font de la recherche, c'est un peu un problème qu'on a, c'est que des fois, on passe trop de temps à des réunions puis pas assez de temps à écrire les résultats des analyses qu'on fait. Et ça, c'est un problème qu'il faut réfléchir. Mais aussi, je pense que le syndicat en général, et pas juste le SFP, le CTC, d'autres centrales syndicales, d'autres grands syndicats, on se doit de mettre un peu plus de ressources personnelles, du personnel, dans ces secteurs-là, parce que c'est la nouvelle frontière où on va avoir à défendre les bénéfices de nos membres. Puis je pense que c'est vraiment important. Puis je sais que moi, dans ma région, je fais beaucoup de travail au niveau des régimes de retraite, et il y a des régions, d'autres régions, qui sont peut-être pas aussi bien servis par rapport à cette question-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas quelqu'un dans leur région immédiate où on peut aller les chercher immédiatement pour une réunion urgente ou un problème urgent. Et ça, c'est vraiment important de penser en ces termes-là dans l'organisation. Parce que si on veut améliorer et défendre ce qu'on a, il faut se donner les moyens. Merci.